mémorable. À l'occasion de l'entrée de la Lituanie dans l'Union européenne, le 1er mai 2004, nous réentendrons cette semaine Algirdas Julien Grémas, mort en 1992. Il avait accueilli France Culture chez lui, dans le Perche, en 1988. S'étant défait de la méthode lexicologique, le linguiste français Grémas, promoteur du fameux actant et du signifiant substantivé, envisagera dès les années 50, et de façon de plus en plus fine, la fonction modélisante de la linguistique parmi les sciences humaines. Algirdas Julien Grémas s'entretenait avec Francesca Piolou. Aujourd'hui, premier entretien, la soupe au pistou.
Algirdas Julien Grémas, aujourd'hui nous nous voyons à Paris, tout près du Palais Royal. C'est-à-dire que vous êtes un homme qui vit entre deux lieux.
Oui, par la force des choses peut-être. Ça m'a été imposé, comme toutes les bonnes choses, par ma femme, évidemment. Finalement, j'ai réussi à en tirer profit et à partager ma vie entre activité d'animation et travail. Donc, je travaille à la campagne et je fais semblant de faire quelque chose à Paris.
La campagne, c'est le Perche. Comment est-ce que vous avez découvert le Perche?
Mais en enseignant la géographie de la France au pensionnat de la Mère de Dieu d'Alexandrie, en Égypte. Oui. J'enseignais tout pour gagner quelques sous. Alors j'ai enseigné la géographie, l'histoire, la littérature, la philosophie, l'histoire de la Chine, la géographie de l'Égypte. Parmi ces choses-là, j'ai trouvé que le Perche, que je connaissais pas personnellement, c'était une province française où il y a beaucoup de bois, de collines, que c'est vraiment très beau. Alors j'ai essayé d'enseigner à ces filles du désert qu'il y avait des pays charmants. Alors une fois rentré en France et quand il s'est posé la question de marquer quelque part, je me suis souvenu des belles leçons de géographie. Vous voyez, c'est aussi bête que ça.
Ce poste-là, vous avez été donné par Barthes.
J'ai succédé, c'est-à-dire que c'est lui qui avait été recruté à enseigner le français quand on était lecteurs tous les deux à l'université d'Alexandrie.
C'était en quelle année?
C'était en 50. Il a penser à moi, disant, mais si vous vouliez bien enseigner un peu, c'était une question de quelques sous, de plus, j'ai accepté, puis j'ai ressenti la vocation familiale d'enseignement. Et j'aimais beaucoup les petites filles, on s'est bien entendu pendant des années.
On a du mal, Grémas, à vous imaginer au pensionnat de la Mère de Dieu.
Oh, j'étais très prisé par la Mère supérieure, qui me demandait des conseils sur la manière d'ouvrir le champagne pour la visite du consul général de France, mais aussi pour le nombre de jupons que le pape autorisait à porter. On était vraiment... c'est la période du pré-Vatican II, des réformes. Alors, au lieu de 7 jupons, on avait autorisé à n'en porter que 5. Alors, c'était la grande fête du pensionnat. Vous imaginez, dans un pays chaud comme l'Égypte, porter 7 jupes, 7 jupons, c'était quelque chose. C'est vous dire, la cordialité et le respect mutuel qui présidait à nos relations.
Et l'intimité.
L'intimité.
Quand même.
Non, pas tellement. Malgré tout le respect et l'intimité, il y avait toujours une sœur qui me surveillait pendant les cours. Elle était assise au bout de la classe, elle tricotait, mais elle ne me laissait pas une seule minute. J'avais même une salle de professeurs pour moi seul, parce que la salle des professeurs femmes était à côté, mais je ne pouvais pas y entrer.
Si on revient à votre vie maintenant, Grémas, cette vie dans le Perche, la campagne, qu'est-ce que ça représente pour vous? Il y a un personnage d'abord très important là-bas, qui est le chien.
Ah oui, ça c'est une des raisons de mon séjour dans le Perche, c'est la liberté que je peux accorder, sinon à moi, du moins à mon chien, hein, qui est vraiment très heureux. Et que c'est, je vis en quelque sorte en m'incarnant en ce chien, et je sens qu'il a de la chance de vivre heureux, libre et aimé.
C'est votre idéal de vie, libre, aimé?
Non, c'est trop dire, parce que ça, les mots sont dangereux. Je crois que on n'est jamais libre. Hein. Oui. On cherche à se libérer de quelque chose, mais la liberté, ça, c'est de la fumisterie, ça n'existe pas. Maintenant, le bonheur, là aussi, c'est un concept du XVIIIe siècle. Hein. Et les gens ne savent plus ce que c'est que le bonheur. Et ils en parlent comme ça pour les sondages, pour les médias, mais c'est trop grave pour qu'on puisse parler du bonheur.
Mais la campagne, bon, alors si c'est pas un bonheur, c'est un plaisir, puisqu'on peut plus parler du bonheur, c'est un mot du XVIIIe siècle.
C'est un plaisir, un double plaisir pour moi. Le plaisir matinal, du brouillard qui s'élève, de la brume fantasmatique qui entoure le pays, parce que c'est un pays très humide. Et puis c'est le aussi le bonheur, si vous voulez, puisqu'on parle bonheur des couchers du soleil, qui sont, là, j'ai devant moi trois villages, avec trois églises et châteaux qui entourent, et ça se cache petit à petit dans l'obscurité. Ce sont des moments de plaisir, de quelque chose, un pressentiment de la communion possible avec autrui, avec le monde. Mais c'est pas du bonheur. On peut rêver.
Est-ce que là-bas, vous avez le temps de lire beaucoup?
Ah non, alors là, je suis catégorique et j'ose même le dire, parce que c'est Roland Barthes qui a eu le premier le courage de dire qu'il est temps pour lire et il est temps pour écrire. Alors, moi, je ne lis plus. Enfin, lui non plus ne lisait plus pendant les 10 dernières années. On n'a plus le temps de lire. Hein. Ou bien on n'écrira jamais. Hein. Alors, je passe mon temps plutôt à écrire. Et quand je suis bon pour rien, je lis les romans policiers. Ça, c'est pas de la lecture. Hein.
Vous avez une discipline d'écriture, c'est-à-dire vous vous obligez, par exemple, chaque jour à la même heure à écrire?
Oui, j'essaie de suivre l'enseignement de Lévi-Strauss. Il disait que dans la journée, on ne peut être productif que pendant 3 heures au maximum, c'est-à-dire dans la matinée. Alors, j'essaie de me mettre à table, au travail à 8 heures, si j'arrive à faire mes 3 pages jusqu'à 11 heures, c'est très bien. Mais c'est à peu près tout. Ensuite, c'est ce qu'on appelle après le travail comme ça, subalterne. Oui. De préparation, des travaux en commun, collectif. Mais alors, le travail, ce qu'on appelle le travail, dans ma génération, oui, c'est quelque chose, qu'on est en contact avec le texte immédiat.
Labeur dur et forcé.
Mais c'est le fait de se surmonter, surmonter les difficultés. Peut-être de temps en temps, une fois par mois, un petit enthousiasme, une petite bouffée de chaleur qui monte du ventre, on a l'impression d'avoir trouver quelque chose, un petit rien, une petite métaphore, quelque chose qui on a l'impression de coller aux choses. Mais ça, c'est la seule récompense.
Cette petite bouffée, vous l'avez eue récemment? La petite métaphore, là?
Ouais, hier, vous voyez. Là, il fallait répondre à la question, à savoir ce que c'est que la sémiotique. Alors, j'ai dit que c'est un accent collectif, mais ça, c'est du jargon. Alors, pour expliquer par une image, j'ai dit, mais c'est un train qui passe. Alors il y a des gens qui prennent le train, montent dans le train, et puis d'autres qui descendent. Alors il y a des individus qui passent dans la machine, dans le train qui est la sémiotique, mais la sémiotique marche toute seule. Hein. Et je ne suis même pas le mécanicien de la locomotive. Hein. Alors là, le train enfin, qui passe, je crois que c'est une... ça m'a fait plaisir d'avoir trouvé ça spontanément. C'est pas grand-chose, mais vous savez, Einstein a dit que il lui est arrivé d'avoir deux ou trois petites idées dans la vie. Alors moi, je prétends pas d'avoir eu des idées, mais des petites comme ça, des petites choses.
Et les vaches, tu regardes passer le train alors ?
Oh, les vaches, ça c'est noble. Ouais. Quoique. En soi, enfin, depuis une première lecture d'Homère, enfin, la vache, elle ne m'a jamais paru un animal particulièrement enfin, noble. Même la beauté de la vache, vous savez, c'est le genou aux yeux de vache. Ça m'a toujours frappé dès l'âge de 10 ans, enfin, peut-être, mes premiers contacts avec Homère. Qu'est-ce que c'est que cette beauté aux yeux de vache. Alors, je suis entouré de vaches, là, dans le perche, sous mes fenêtres, elles pèsent. Mais ça fait partie du paysage. C'est des insectes.
Même si vous ne lisez plus, Grémas, vous n'avez pas toujours une approche du texte qui est une approche de sémioticien. Vous pouvez avoir une approche plus voluptueuse du texte. Ça voudrait dire que ma conception de la sémiotique n'est pas une conception voluptueuse de la lecture.
Ah, c'est le cas. Mais après, là aussi, il faut... Je sais pas, il y a deux approches. Ou bien l'approche voluptueuse, mais du départ, le premier contact. Et puis après, le travail, disons la lecture... Quand vous êtes à la 50e lecture d'un petit texte, enfin, il y a un nouveau plaisir qui réapparaît, une nouvelle volupté de prendre possession du texte, enfin, de posséder. Parce que je crois que le concept de possession est quelque chose d'important. Et alors, là, il y a donc le toucher à la surface, et puis la possession pleine, ou l'illusion de cette possession, qui est une autre volupté.
Hein? Maupassant, par exemple, vous le possédez.
Oh, Maupassant, je ne sais pas. Maupassant, ça remonte à ma prime jeunesse, un peu, en quelque sorte. C'était l'auteur français le plus connu dans le monde entier. En plus, après, là, cette idée de quelque chose qui est plus fort que la mort, après, est une idée fascinante. Après, maintenant, elle est un peu... démodé. Alors, ce n'est pas, Maupassant n'est pas pour moi enfin, quelque chose qui fascine, hein, mais quelque chose qui est enfin, un dépassement de l'athée pour retrouver Dieu. Enfin, je ne sais pas comment. Vous voyez, ce désespoir de l'athée. Alors, c'est... plutôt un contact, disons, cognitif, intellectuel avec Maupassant.
Alors, quels sont les écrivains avec lesquels vous avez un autre contact qui vous fascine, avec lesquels vous avez un contact autre que cognitif ?
Ah, ça, c'est le dernier en date et le plus important, peut-être, c'est Italo Calvino.
Il était votre ami ?
Oui, si, en me regardant du haut ou du bas, s'il peut accepter... cet honneur de me considérer comme son ami, enfin, on l'était, on avait une sympathie naturelle, enfin, donc sans parole. C'était un homme qui n'a peu de parole, vous savez, Calvino. Alors, donc, c'est quelqu'un avec qui on se sentait bien sans beaucoup parler. Enfin, je crois que c'est ça l'essentiel, enfin, de ce qu'on pourrait appeler éventuellement l'amitié, enfin. C'est quand on est bien, sans parler avec quelqu'un. Alors, comme écrivain, évidemment, je crois que là, ça, c'est un autre aspect. Hein. C'est quelqu'un qui a résumé d'une certaine manière toute la problématique de la postmodernité, comme on dit. Hein. parce qu'il y a le résumé, la concentration de tous les styles, de toutes les écritures possibles, et la dérision qui en résulte. Enfin, c'est une bombe qui éclate. Enfin, je fais de la littérature sur la littérature, ce qui est du mauvais goût, j'ai moins d'excuses.
Vous aimez la poésie aussi? Parce que, par exemple, je vois que vous n'êtes pas d'accord avec certaines traductions de Rilke.
Ah oui, c'est... Évidemment, la traduction est toujours une trahison. Ça, c'est les Italiens qui l'ont trouvé.
Mais, c'est la création d'une troisième langue, comme disait Fabry.
Oui, c'est justement c'est la sémiotique telle que nous la concevons, enfin, qui devrait servir de cette interlingua pour rendre la traduction possible. Alors, je suis toujours étonné par des traductions qui sont des trahisons continuelles, surtout en poésie. Je vois Rilke, j'ai pris la traduction qui était supervisée par De Mans, vous savez, le grand déconstructionniste, oui. Et c'est là, du premier vers jusqu'au dernier, tout est trahi. Quelqu'un qui n'a rien compris. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut prendre au sérieux ces traducteurs. Alors, la poésie, c'est un problème.
Et Rilke?
Ah, Rilke, ça, c'est...
L'odeur du jasmin.
Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, pour moi, la première langue étrangère que j'ai apprise, plus ou moins, c'est l'allemand. Mais j'avais possédé très bien, mais pour moi, c'est quand même la culture allemande qui était la première. Alors, donc, Rilke est lié à ma jeunesse. Et les amis que j'ai eus, les poètes lituaniens, par exemple, étaient tous des poètes de l'ange. Vous voyez cette obsession de l'ange, quoi. Chez Rilke, alors j'en ai rencontré quelques-uns qui étaient porteurs de l'ange.
Est-ce qu'il vous arrive de lire des poèmes à haute voix, comme ça, pour le plaisir de l'entendre? Est-ce que vous avez un goût comme ça de la parole ou du mot, Grémas?
Un peu quand je suis sous, mais après...
Quand vous êtes sous?
Oui.
De quelle ivresse?
Il y a longtemps que je ne m'étais pas saoulé déjà, mais quand j'étais jeune, il y avait même un plaisir tout particulier de se saouler pour réciter la poésie. Je connaissais des centaines, des milliers de vers par cœur, et on s'est récité comme ça. C'était une façon de se saouler, vous voyez. Je crois que c'est la drogue maintenant, peut-être fait la même fonction.
Est-ce que vous avez encore maintenant cette ivresse des mots? Est-ce que cela vous arrive?
Non, je le garde pour moi. Oui, ça.
Qu'est-ce que vous gardez pour vous, les mots ou l'ivresse?
Les deux, mais peut-être séparément.
Pas au même endroit.
Non.
Pas au même endroit.
Non, mais ça fait, je arrive à croire de moins en moins en mots, tout en les aimant.
Le mot écrit ou le mot parler, vous n'aimez pas, par exemple, comme vous êtes un maître, on vous considère comme tel dans les séminaires de sémiotique, prendre la parole. Vous n'avez pas ce goût comme ça, de la parole qu'on prend en public?
Ouais. Là, j'ai toujours l'impression d'être un mauvais acteur sur la scène, puisque je n'arrive pas à faire aussi bien qu'un acteur. Alors, et en même temps, quand je parle, je me sens parler, et jouer un certain rôle, et c'est vraiment très dangereux et particulièrement désagréable. Je ne sais pas, vous savez, il faut pas se cacher. Il y a des petits plaisirs de reconnaissance. La salle vous écoute, on vous applaudit. Tout ça, c'est mesquin et c'est humain. Pas, mais à part ça, ce qui reste, c'est quand même quelque chose de désagréable.
Vous avez le trac quelquefois?
Ah, toujours, surtout chaque année. Le premier séminaire, pour moi, c'est ça, je passe une nuit difficile. Et les premières 5 minutes, je balbutie, je n'arrive pas à faire des phrases.
C'est comme dans votre lecture des évangiles?
Ah oui, ça vous me rappelez une histoire où mon curé après m'a demandé de lire les évangiles pendant la messe, et alors j'ai commencé à lire en imitant le style qu'on adoptait pour lire Nietzsche, vous savez, ainsi parla Zarathustra, ainsi parla Zarathustra, et ajoutait encore, surtout n'aidez pas les pauvres, mais jetez-les, enfin, etc., avec tout ce style évangélique. Alors je me suis, j'ai pris conscience d'un seul coup que je faisais de la comédie, alors stop, et je me suis arrêté au milieu du texte, après, j'ai dit, monsieur le curé, reprenez votre évangile, je ne peux plus, enfin, ça ne marche pas. Alors, donc, depuis, je n'arrive pas à prendre des responsabilités de lecture. Sauf, une fois, à l'église de Condé, là, il y a mon voisin est mort, alors j'étais allé à son enterrement, et le curé de nouveau m'a dit, ben, vous allez lire maintenant un texte du cardinal anglais, comment il s'appelle, pas un grand catholique, sur la Weissen, tous les catholiques savent ça,
ah bon,
vous êtes mauvaise catholique. Alors, j'ai lu ça, et alors, tellement inspiré que mon autre voisin, ensuite, après la cérémonie, m'a dit, vous avez tellement bien lu, comme si vous y croyiez. Alors ça, c'était ma réussite, disons, oratoire. Non, mais c'est... peut-être qu'il y avait un peu de sentiment sincère.
Voilà pour la période oratoire de Grémas. Si vous n'avez pas tellement le goût du mot, un peu quand même, vous mentez un peu la grimace. Hein. Mais est-ce que vous avez le goût de l'image, par exemple?
Ah, c'est l'image pour mon plaisir. Hein. Je dirais pas des choses simples, hein. Plutôt peut-être le goût des lignes. Hein. Vous voyez, des lignes droites, des courbes, hein. Des souvenirs qu'on garde, hein, de la vie. Hein. Une certaine courbure, un certain galbe. Vous voyez, ce sont des sentiments simples liés, disons, à la façon de fabriquer des images. Et puis, évidemment, il y a, enfin, comme tout le monde, la photo, la peinture, enfin, certaines formes de peinture, mais ça c'est pas original. Enfin, je crois que je partage avec beaucoup de monde.
Il y a un peintre que vous aimez en particulier?
Oh. En ce moment, ouais, difficile à dire. Autrefois, quand je parle plutôt de mes jeunes temps, enfin, j'étais amoureux de Matisse, par exemple, à un moment donné. Alors, vous voyez ce que je veux dire, oui, par les lignes. Ouais.
Et par la courbe, oui.
Ouais. Ouais. Ça, je ne sais pas. Mais...
Le cinéma, par exemple, Grémas, vous allez au cinéma?
Bah, une fois tous les 10 ans. Si vous allez voir Nostalgia dernièrement, ça fait 2 ans. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Swarovski, de soviétique. Alors, on m'a dit tellement bien, comme j'aime beaucoup la nostalgie, alors, je suis allé finalement voir, et j'étais assez impressionné par la traduction de Dostoïevski en cinéma, vous voyez. Bien que la thématique ne concordait pas du tout, mais enfin, ce monde où on patauge dans la boue, enfin, était quelque chose d'extraordinaire. Oui, ça m'a... autrement, je passe mon temps à la télévision, comme tout le monde.
C'est un plaisir, voir. La télévision?
Non, c'est un besoin de remplir l'espace d'images et de sonorités quand on ne veut pas rester seul. Je crois que c'est une sorte d'échappatoire. C'est très mauvais, mais je ne peux pas faire autrement. Parce que, quelquefois, c'est un peu trop difficile d'être avec soi. Alors là, mais ça, c'est je vous raconte des confidences, enfin, qui n'intéressent personne.
Si, si, ça nous intéresse, Grémas. Alors justement, parce qu'il faut qu'on vous trouve derrière les lignes. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie encore?
Dans
la vie, qu'est-ce que vous aimez encore? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, à part ces paysages, à part bon, ces colloques où vous prenez la parole, les couleurs, la brume du petit matin, le sourire de Teresa?
Oui, à part ça, peut-être la soupe au poisson. C'est le dernier souvenir agréable.
Ah, vous vous moquez de moi, Grémas.
Ah non, je suis sérieux, j'ai cherché.
Après. C'est la soupe au pistou dont vous faites l'analyse, mais la soupe au poisson, elle n'est pas encore faite?
Non, la soupe au pistou, c'est une soupe de papier, vous voyez. C'est parce que la femme d'un collègue voulait que je transmette la recette de la soupe au pistou à ma femme. Alors, je l'ai gardé, je l'ai chipé, j'ai vu que c'est quelque chose d'intéressant, du point de vue narratif, que la recette de cuisine est une histoire, un récit. Enfin, finalement, c'est pas une recette, c'est un récit. Alors, j'ai essayé de l'analyser, j'ai travaillé, et je suis devenu assez célèbre à cause de cette soupe au pistou, parce que, c'est pour montrer après qu'on peut faire des choses simples, même avec des instruments, des méthodes compliquées.
C'était mémorable. Algirdas Julien Grémas s'entretenait avec Francesca Piolo en 1988.